Bonjour et bienvenue sur Studio Zef. Aujourd'hui, c'est la troisième édition de Feuilles Vives en Campagne, notre émission en direct des lieux charnières de la relation ville-campagne. Tout l'après-midi, l'équipe de Studio Zef est aux métairies du Pont-Saint-Michel, en direct et en public, pour le festival Vienne en Goguette qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Alors, Agathe Gourdeau-Montagne du collectif des métairies est avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Tout l'après-midi, un marché de producteurs et d'artisans se tient sur le site. N'hésitez pas à venir faire un tour. Et ce soir, à 20h, la Symphonie de Poche rendra hommage à Bourville. Un concert organisé dans le cadre d'un autre festival, Va jouer dehors, qui s'achève aujourd'hui. Son organisatrice Marie Vaquez est avec nous. Bonjour.
Bonjour à tous.
Donc avant de discuter de vos festivals respectifs, on va faire une petite présentation de l'après-midi. Donc cet après-midi, c'est la clôture du projet Feuilles Vives que vous avez pu suivre pendant 15 mois sur Studio Zef, avec une trentaine de reportages et une dizaine d'objets sonores produits par la dernière promotion des étudiants de l'école du paysage de Blois. Donc des émissions que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans la rubrique Feuilles Vives du site studiozef.fr. Feuilles Vives, c'est aussi des émissions en direct et en public, comme cet après-midi. Donc c'est la troisième, là, cet après-midi. En février, nous étions au bar de Chambon-sur-Cis pour discuter du dynamisme des bourgs ruraux et de leur commerce. Et il y a un an, quasiment jour pour jour, nous étions au Théâtre du Grand Orme à Fin pour discuter des lieux de culture en milieu rural. C'était déjà à l'occasion de la journée de clôture du festival Va jouer dehors. Alors aujourd'hui, on est surtout là pour parler d'agriculture urbaine et de ses contacts avec les habitants, les consommateurs, les publics. Donc c'est une après-midi que je vais animer en compagnie de Lolita Voisin, enseignante à l'école du paysage de Blois. On va parler de restauration vers 16h, de production agricole vers 17h30, de jardin partagé vers 19h, notamment avec les membres du collectif des métairies dont le projet Protéiforme recouvre un peu tous ces aspects. Alors Agathe, les métairies, c'est du maraîchage, un jardin partagé, des jardins pédagogiques, de la restauration et aussi donc du coup des événements culturels comme aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux nous présenter ce festival Vienne en Goguette et en quoi il s'intègre dans le projet plus général de jardins périurbains ?
Alors Vienne en Goguette se déroule donc sur le site des métairies du 25 août aujourd'hui au 31 août vendredi prochain. Il y aura des événements tous les jours, des choses différentes à découvrir, à la fois de la musique, du théâtre, des dérives expérimentales, de la reconnaissance des étoiles, des ateliers de confection, de cerf-volant. Voilà, vraiment, c'est assez éclectique qu'on a voulu proposer justement des choses très différentes pour attirer et faire venir un public aussi très différent et puis pour changer un petit peu aussi, et que ce ne soit pas toujours la même chose.
D'accord. Et du coup, donc c'est un peu vous utilisez ce festival un peu comme un cadre pour l'expression ou le faire venir d'autres associations.
Oui, c'est ça. C'est vraiment le projet des métairies, c'est d'être ouvert donc, à la fois aux habitants du quartier, aux habitants de Blois, des alentours, et puis aux associations locales. Donc de faire venir du monde sur le site, ce festival-là, c'était vraiment une bonne occasion. On a cherché, trouvé des partenaires locaux, des partenaires un petit peu moins locaux, mais pour faire aussi découvrir le lieu qui ne doit pas non plus rester restreint à la ville de Blois.
C'est la première fois que vous accueillez autant de public sur le site ?
Oui. On a déjà ouvert nos portes, on fait des fêtes à chaque saison, donc il y a eu la fête du printemps, la fête de l'été. Et donc c'était les premiers accueils du public et voilà, pour le festival on fait ça en grand sur une semaine et on espère avoir du monde et que les gens seront curieux et voudront venir découvrir un peu qu'est-ce que c'est que ces jardins.
Et pour ce faire, vous avez aménagé un petit peu le site par rapport à son quotidien. Est-ce que tu peux nous décrire pour les auditeurs un peu l'espace dans lequel on est là actuellement ?
Oui, là on est dans ce qu'on appelle l'Agora, donc c'est l'espace dédié aux événements, c'est là où les gens peuvent se retrouver et profiter du jardin. Donc il y a un espace qui est vraiment construit comme un jardin avec des plantes, il y a un peu tout, des plantes vivaces, des plantes annuelles, des fleurs, des courges qui envahissent un petit peu d'ailleurs, qui se plaisent bien. Et on a construit des assises autour de ces plates-bandes. On a fait beaucoup de choses avec du matériel de récupération. On a construit également une pergola au centre pour faire pousser des plantes et avoir de l'ombre naturelle. Donc on s'est vraiment appuyé sur l'architecture du jardin, ce qu'il nous donnait, pour ensuite retravailler et rendre le jardin vraiment agréable. Et c'est vraiment un lieu où on souhaite que les gens puissent aller se poser, se détendre, être entre amis, en famille et profiter du jardin.
Il y a aussi des stands autour de nous. Ça, c'est le marché de producteurs qui s'est installé ce matin.
C'est ça, c'est en face du jardin. C'est un espace qui est dédié à ça, aux brocantes, aux marchés de producteurs, ce genre de choses. Qui fait face au jardin, c'est juste à côté et ça permet, bah là c'est pour découvrir des produits locaux et des artisans d'art également.
Ok, et donc si c'est la première journée pour Vienne en Goguette, c'est en revanche la dernière pour Va jouer dehors, donc c'est un festival de musique classique itinérant plutôt au sud blésois, on l'avait documenté dans un reportage de Feuilles Vives déjà, il y a donc déjà eu une émission en direct et il y a eu aussi deux émissions réalisées par les étudiants de l'école du paysage. Et donc là c'est un festival qui clôt aujourd'hui sa troisième édition, donc est-ce que Marie, peut-être tu peux nous faire un peu le bilan de ce festival, ses temps forts et nous présenter aussi du coup la soirée de ce soir.
Eh bien oui, donc comme tu disais Nicolas, donc nous on achève aujourd'hui la troisième édition du festival qui a donc commencé le 15 août. C'est donc notre huitième soirée aujourd'hui. On a arpenté un petit peu tout le territoire du sud du Blésois et de la vallée du Cher avec des concerts très variés, que ce soit au niveau des lieux qu'on a investis, parce que c'est vraiment le concept du festival, c'est d'aller vers des endroits et pour des publics qui n'ont pas forcément l'occasion ou en tout cas l'habitude d'aller voir des concerts de musique classique. Donc on se limite à aucun lieu, ça peut être les bords de Loire, des campings. Ici, un espace, moi la première fois que je l'ai visité, c'était je pense il y a un an maintenant. C'était difficile d'imaginer qu'on allait pouvoir y faire des choses et accueillir du public. Et en un an, je suis assez bluffée de voir comment ça a été aménagé. Mais pour revenir au festival, ben voilà, nous on est très contents de cette édition jusqu'à maintenant et il a fait très très beau, donc ça a permis qu'il y ait beaucoup de public de manière très régulière sur nos différentes soirées. Tout se passe bien, je pense que le concept commence à être connu de notre public, à savoir démystifier un petit peu l'univers de la musique classique qui souffre quand même d'une image en tout cas très poussiéreuse, bourgeoise, un peu d'inaccessibilité. On entendait beaucoup au début quand je parlais du projet, mais la musique classique c'est pas pour nous. Et le public qui est venu au festival et qu'on a la chance de revoir chaque année, qui vient maintenant avec des amis, des enfants, nous montre que on a réussi ce pari de rendre ça accessible. Les gens sont à l'aise parce que c'est dehors, parce qu'on accueille aussi des artistes qui, au-delà de leur qualité artistique, ont compris le concept et savent communiquer aussi avec le public qui est souvent peu familier de ces concerts. Et je trouve que on est vraiment contents. Moi, je suis vraiment contente que ça se finisse à Blois. C'est vrai qu'initialement, c'est un festival qui a vocation à être rural. Et en même temps, quand on est ici, même si en retournant, je vois la cathédrale de Blois et puis tous les bâtiments du centre-ville, on est quand même dans un cadre extrêmement champêtre. Et du coup, ça correspond vraiment à la philosophie du festival. Donc, c'est bien que ça puisse se terminer ici. Et puis là, on entend quelques gouttes de pluie au-dessus de notre tête. Mais je pense que ça va s'arrêter. Et voilà, j'invite tous ceux qui nous écoutent à nous rejoindre pour le dernier concert. Je ne sais pas si on va en parler plus tard ou si je peux dire un mot maintenant. Mais je trouve que ça résume aussi bien l'esprit du festival, qui est toujours garder ce cadre classique, mais en éclatant un peu le cadre. Et donc là, la Symphonie de Poche, qui est un orchestre symphonique qui est déjà assez particulier par sa composition. Et déjà, ils sont peu nombreux, ce qui permet d'aller jouer un peu partout. Et puis, ils ont des instruments assez originaux. Il y a un accordéon, par exemple, qui n'est pas vraiment un instrument traditionnel de l'orchestre symphonique. Il y a un marimba, un instrument à percussion. Il y a un cuivre. Et puis, il y a tout un tas de changements comme ça par rapport à la tradition. Et surtout là ce soir, ils se sont alliés avec un comédien chanteur qui s'appelle Emmanuel Plintel, avec qui ils ont travaillé sur un programme autour des chansons de Bourvil, qui à la base est quand même était donc un chanteur avant d'être comédien. Et donc, il revisite comme ça ses plus grands succès, on va dire, à la sauce symphonique. Donc, je pense que ça, ça promet d'être, d'être très sympa. Donc, n'hésitez pas à venir à ce concert.
Et justement, la scène où aura lieu ce, ce concert ce soir est juste à côté de nous. Est-ce que tu peux la décrire un peu pour raconter le cadre dans lequel a lieu ce concert et qui est un peu le, l'objet aussi de ton festival?
Voilà, alors, donc c'est une scène en plein air qu'on a, qui a été installée par la ville de Blois et donc, qui fait dos à l'espace du Vivier, donc, qui est un, une sorte d'étang selon les saisons plus ou moins rempli d'eau. Et avec des grands saules qui ferment un peu le, l'espace. Donc il est juste, il juxtapose le, enfin il est juste à côté en tout cas. Voilà, je vais trouver le mot de du jardin. Donc il y a, c'est ça qui est assez sympa sur ce site, c'est qu'il y a en même temps il y a des espaces très différents et en même temps tout est à proximité et il y a des allers-retours qui peuvent se faire entre voilà le, la scène, le jardin, l'espace de restauration et voilà, on, c'est dos au public, il y aura le, les moutons et l'âne et, qui vont, peut-être vont participer au concert. On les a entendus un peu ce matin, donc on va voir comment ils réagissent à la musique. Mais voilà, c'est un cadre intéressant. Je pense que dans quelques minutes, il y a les artistes qui vont arriver. Je les ai prévenus, moi, parce que évidemment, on est très loin de la salle traditionnelle où ils ont l'habitude de jouer. Donc j'ai hâte de voir comment ça va, tout ça va s'intégrer.
Mais là, c'est vrai qu'ils vont avoir derrière eux une très belle fenêtre, en quelque sorte, sur, comme tu le disais, un espace boisé. Et... ouais, c'est un cadre particulier quoi, pour écouter de la musique.
Ouais, puis ça, c'est marrant parce qu'on voit dans le public, bah, même d'ici, on voit les tomates et les courges du jardin partagé. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que ça apporte au Métairie, donc à Agathe, d'avoir cette partie événementielle culturelle dans un espace dédié au jardin, donc différents jardins mais quand même au jardin?
Bah, c'est pas du tout antinomique d'ailleurs je pense de pouvoir faire un peu la fête au jardin et puis le projet est construit comme un ensemble donc, et puis depuis le début en fait ça nous paraît, cette idée de faire des événements, de faire venir du public a fait partie du projet tout de suite. C'était vraiment être très, très ouvert et pas du tout cloisonné. Donc il n'y a pas de cloison d'ailleurs dans ce jardin. Il y a un mur qui est un mur qui était là quand on est arrivé et qui date au moins du XVIIIe siècle. Donc on va le laisser là. Et sinon, c'est vraiment très ouvert. On peut voir tous les espaces. Et donc pour revenir à ta question d'ailleurs, qui était
De ce que ça apportait, parce que certes c'est pas antinomique, mais on peut imaginer un projet d'un ensemble de jardins sans avoir cette dimension événementielle, quoi, avec tout de même de l'accueil du public dans les jardins pédagogiques, dans les jardins partagés, pourquoi pas dans le jardin maraîcher. Mais là en l'occurrence, il y a cette dimension événementielle du projet, tu l'as souligné avec les fêtes de saison, avec ce grand événement qui sera peut-être amené à se répéter à l'avenir sur une semaine, donc c'est assez conséquent.
Bah, on trouvait aussi que ça manquait peut-être dans le quartier Vienne, cette dimension-là de guinguette, qu'on ne peut pas appeler guinguette parce qu'on n'est pas au bord de l'eau, donc qu'on appelle goguette, mais d'un lieu où les gens peuvent se retrouver, faire justement des événements comme ça. Ça permet un peu plus de cohésion entre les personnes qui vont aller les unes vers les autres, peut-être un petit peu plus facilement, c'est plus informel et c'est vraiment, voilà, c'est une dynamique comme ça qu'on cherchait, que les gens puissent se rencontrer aussi, partager des choses, par exemple dans le jardin partager des connaissances autour du jardin et puis après se retrouver auprès de la buvette pour continuer ces échanges-là et puis échanger sur d'autres sujets. Enfin, voilà, c'est...
D'accord. Et est-ce que du coup, pendant cette semaine de festival, il va y avoir des moments où vous allez exploiter vraiment l'espace jardiné pour, je ne sais pas, accueillir du public ou peut-être que ce sera pour plus tard, je sais.
Oui, il y aura une fois où les gens auront le droit de sortir de l'agora. Ce sera le jeudi, dans le cadre des Dérives. Donc c'est la compagnie Suivez ma jeune homme qui organise ça. Et en fait, ce sont voilà, quatre filles qui vont inviter le public à dériver et donc à appréhender leur espace différemment, à appréhender leur environnement différemment à peut-être déambuler un peu en regardant autrement en fait le jardin. Et puis après, elles vont donc faire cette dérive-là dans les métairies et après sortir du site pour continuer dans le quartier Vienne. Voilà, donc vous pourrez en savoir plus dans la semaine. Elles arrivent lundi pour installer. Il y aura une petite scénographie qui sera mise en place. Vous pourrez la découvrir dès mardi. Et puis, ces quatre filles de la compagnie Suivez-moi, jeune homme seront là aussi pour répondre aux questions. Et la dérive commencera le jeudi à 16h.
D'accord. Donc c'est une forme de résidence, quoi, où elles vont vraiment habiter le lieu.
C'est la clôture de toutes les résidences. C'est un projet qu'elles mènent depuis 2 ans, je crois. Et l'occasion du festival, c'est de finir le projet et de faire... leur projet aboutit pendant le festival.
Ok. On voit bien, en vous ayant toutes les deux autour de la table, que c'est aussi un projet qui associe différentes personnes et différents objectifs, que vous croisez chacun avec des entrées différentes à un moment donné, un intérêt commun. Est-ce que c'est important pour vous, cette dimension partenariale, chacune peut-être au sein de votre propre activité? Peut-être on peut commencer par Marie.
Ouais. Ah ben, nous, non seulement c'est important, mais c'est vraiment primordial même. C'est de cette idée-là aussi qu'est né le projet. Parce que je pense que pour que les gens... Nous, on avait besoin que les gens se sentent concernés, en fait. Et pour ça, il fallait trouver des moyens aussi de les faire participer au projet. C'est compliqué ici. Moi, je viens de la musique classique, donc ça a été une part de mon quotidien. Mais on est quand même souvent très éloigné de l'univers des gens. Et en fait, en les impliquant, soit en les associant, en leur donnant aussi un rôle et une place dans le festival. Ça peut être avec des associations avec qui on a créé des soirées qui rassemblaient de la musique classique et de l'astronomie, ou travailler des viticulteurs. Chacun aussi amène son réseau et ça donne en fait cette dimension où on... Nous, ce qu'on a voulu surtout pas faire, c'est venir apposer un modèle et une idée sur un territoire, mais au contraire de co-construire ça et de lui donner aussi une identité en fonction des gens qu'on associait. Et je pense que c'est aussi ça, et c'est aussi pour ça que les gens viennent et reviennent sur les différents concerts. C'est que finalement, je pense qu'il y a... J'ose dire qu'il y a peut-être un esprit qui va jouer dehors, et en même temps chaque lieu, chaque soirée est très différente parce qu'elle est aussi construite. Ça peut être avec des communes, avec une association, et que chacun amène aussi un sens. Et nous, on a un deuxième point qui est très important, c'est qu'on a un festival qui est itinérant, donc avec une logistique qu'on doit gérer qui est relativement lourde, du fait que chaque jour, on monte et on démonte, et que si sur ce point-là, on n'est pas aidé par des structures et des personnes, je pense par exemple là, à l'équipe de bénévoles, c'est aussi ça un festival, c'est pas juste les personnes qui ont peut-être à la base construit le concept et la programmation, c'est aussi les gens qui s'impliquent à l'année et surtout pendant le festival pour le faire vivre. Sans ces gens-là, on n'y arrive pas. Enfin, on n'y arrive pas, et puis ça donne vraiment un sens à cette action, quoi. Tous les moments qu'on partage au-delà du concert, ensemble avec les gens, sur les journées, en amont, moi c'est vraiment ça qui me plaît beaucoup.
Et alors là justement, Agathe, pareil, vous accueillez une autre association. Enfin, comment vous voyez ça, vous, ce travail partenarial avec différents acteurs?
Depuis le début, on a voulu aussi s'inscrire dans ce qui existait déjà, le tissu associatif local, social. Enfin, c'était... Dès le début, on a voulu trouver des partenaires, travailler avec d'autres. On travaille par exemple avec des associations qui font venir des migrants, qui participent au jardin partagé, qui ont été bénévoles aussi, qui sont bénévoles sur le festival. Et l'idée, c'est vraiment ce que je dis depuis le début, c'est s'ouvrir un maximum et travailler ensemble et ne pas être juste le collectif des métairies qui fait son projet tout seul dans son coin, mais essayer d'ouvrir un maximum. Et le site est grand et donc il y a de la place pour d'autres. Donc on n'est vraiment pas du tout fermé à l'avenue d'autres personnes.
D'accord, parce que y a plein d'acteurs du coup qui vont venir. Ça va être une association de jeux de société demain. Il y a la ressourcerie aussi qui doit venir. Je crois qu'il y a une soirée en partenariat avec Cinéphile.
Et Little by Little.
Et Little by Little, donc de l'organisation de concerts, du cinéma. Donc il y a cette volonté-là d'agglomérer les publics, d'agglomérer les...
Ouais, et de travailler ensemble, en fait, parce qu'on cherche tous un peu à atteindre le même but. Donc plutôt que de faire ses actions chacun dans son coin, autant travailler tous ensemble.
D'accord. Et c'est quoi ce but ?
C'est quoi ce but ? Bah, c'est de rendre les gens un peu plus autonomes, de les ouvrir aussi à des choses qu'ils ne connaissent pas forcément, de sensibiliser à l'environnement, à sa protection, de sensibiliser à la transition, qui est encore un concept un petit peu vaste. Mais, et chacun à sa manière, dans les partenaires que tu as cités, cherche, je trouve, un petit peu ce but-là, vraiment de s'ouvrir aux gens, de faire venir un maximum de personnes, leur faire découvrir des choses qu'elles ne connaissent pas forcément aussi.
On a l'impression que c'est un peu justement dans la complexité, ou presque, on pourrait dire, l'interdisciplinarité, que se construit votre but d'être ensemble, et chacun peut amener son point de vue sur quelque chose qui est en train de bouger tous ensemble.
Oui, c'est ça. C'est même pour nous, encore, le projet est un peu complexe, et je pense qu'il le restera. Et ça évolue en fonction de nous six du collectif, en fonction des gens qu'on rencontre aussi, qui sont intéressés par ce qu'on fait. Enfin, il n'y a pas de cadre vraiment bien défini en disant on va faire comme ça ou comme ça. Et c'est un projet qui évolue en fonction du contexte dans lequel on est.
Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup sur le plateau d'agriculture urbaine, d'alimentation, de rapport justement ville-campagne. Ici, vous êtes, comme le cité Marie, dans un cadre très champêtre, mais pour autant, vous êtes en ville, vous êtes sur la commune de Blois. Mm-hmm. Comment vous voyez votre implication agricole au sein de la ville ?
Bien déjà, il y a Arthur qui s'installe en tant que maraîcher sur le site. Il va avoir une parcelle dédiée à la culture de fruits et légumes qui sera destinée dans un premier temps aux restaurateurs locaux. Donc faire vraiment du circuit ultra court. Et puis les restaurateurs pourront aussi choisir un peu leurs légumes, la quantité. Et voilà, Arthur va cultiver en fonction des besoins, des demandes pour limiter au maximum les pertes également et faire un petit peu du sur-mesure. Il y a également le jardin partagé, donc qui est ouvert à tous. Il faut adhérer à l'association et au jardin. Il y a une cotisation qui reprend l'accompagnement que les gens ont, et puis le matériel, les graines qui sont fournies. Et donc voilà, les gens jardinent en fait ensemble sur une grande parcelle de 3000 m². Et ils ramassent les légumes ensemble et se partagent ensuite le fruit de leur récolte. Et puis ça permet voilà, de créer du lien, des échanges, ce genre de choses. Et puis on fait aussi de l'éco-pâturage avec les moutons de Gaël Maudo. Donc il y a 11 moutons, il y a eu 3 agneaux qui sont nés sur le site. Et ils nous tondent l'herbe et ils sont très très efficaces.
Oui, parce qu'on en avait parlé, même pour le parking, et tendu par les moutons. Enfin, du coup, il n'y a pas cet espace de parking éventuellement artificialisé qui resterait là toute l'année et qui, du coup, quand il n'y a pas d'événement, resterait vide. Là, du coup, s'il n'y a pas d'événement et qu'il reste vide, bah, l'herbe pousse, quoi.
Oui, c'est ça. On peut voir aussi dans le jardin que tout n'est pas tondu, tout n'est pas... Enfin, il y a encore des très hautes herbes. Parce que c'est pas nécessaire d'aller dans cette parcelle-là, c'est pas nécessaire de tondre. Donc on fait quand même bouger les moutons, parce que quand ils n'ont plus d'herbe, après ils sautent la clôture et ils vont manger les légumes du jardin partagé. Les gens n'aiment pas trop. Mais c'est de la tonte faite par les moutons et on essaye de laisser vraiment des espaces naturels.
Et un espace comme celui-ci, le jardin des Métairies, c'est un espace qui semble bouger beaucoup, changer souvent, justement en fonction de la programmation ou des activités que vous y faites ou que les gens proposent. Et aujourd'hui, par exemple, on est dans une configuration un peu particulière. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de votre envie de pouvoir s'adapter, que les lieux s'adaptent facilement à...
Le site est modulable, donc c'est en fonction des activités, ce dont on a envie de faire. Il y a toujours moyen de trouver un endroit idéal où se mettre et de faire quelques constructions si nécessaire pour améliorer tout ça. Et vraiment, le site, il a été pensé et dessiné de manière à pouvoir s'ouvrir sur un maximum de choses, un maximum d'activités.
Et vous êtes, j'imagine, pour dessiner ce projet, beaucoup inspiré du lieu, de ce qui était déjà là, du caractère du lieu. Est-ce que, comment s'est passée cette rencontre avec le lieu, finalement ? Qui est-ce qui vous rassemble ?
Alors là, ce serait Arthur qui serait le plus apte pour en parler. C'est lui qui a dessiné le jardin et les plans, et donc qui s'est inspiré. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu de la coulée verte déjà. Il a gardé vraiment une belle ouverture sur la Loire, depuis la digue sur la Loire. Et donc le site a été construit ensuite à partir de ça, à partir de cette grande, ce qui est devenu une grande allée d'ailleurs, avec plein de fruitiers sur les côtés. Et à partir de là, il a construit les différents espaces en essayant de garder un peu l'identité du site. Donc par exemple, le jardin de l'Agora, il se trouve dans l'espace d'un ancien jardin maraîcher. Il est pas très loin de la grange d'Emeteri, et qui était un ancien espace agricole qui a été racheté par des agriculteurs. Et donc on suppose que cet espace-là qui jouxte vraiment la grange, c'était leur jardin. Donc la terre est très très bonne, on peut voir avec les courges qui sont devenues énormes, qui ont tout envahi. Et j'ai perdu le fil.
Et c'est la manière dont chaque espace a été pensé par rapport à ce qui était déjà là, ou en tout cas par rapport à ce que vous pensez, ce que vous avez interprété.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment s'appuyer. Pareil, on va utiliser le vivier. Donc c'est un trou qui a été creusé pour garder l'eau et garder les poissons, un garde-manger en fait. Et donc il y a deux anciens viviers qui sont encore là, avec donc des beaux saules qui les entourent. Et on va s'appuyer aussi dessus pour essayer de faire une mare pédagogique, faire venir des écoles ou du public. Des habitants en fait, pour faire découvrir un petit peu la vie aquatique. Et donc c'est avec ce qu'on a, on fait au mieux.
Et le site est toujours ouvert
au public?
Oui.
Non, les gens peuvent venir si on est sur le site, mais ils ne peuvent pas rentrer s'il y a personne.
Mais par contre, visuellement, il est toujours ouvert. On peut le voir
parce qu'il est
très grand. On peut le voir de la route, de la digue, des chemins qui traversent cette partie du quartier Vienne.
Oui, il reste ouvert visuellement, mais pour rentrer, il faut demander la permission.
Oui, parce qu'on voit, il y a cette grande allée centrale. Bon, il y a la haie qui commence à pousser un petit peu par rapport au printemps dernier, ça a déjà commencé à monter. Et c'est vrai que du coup, il y a cette grande perspective où on regarde d'un côté, on a le château, l'église Saint-Nicolas, et de l'autre côté, on a l'autre coteau de la Loire, mais qu'on voit à peine, qui est caché derrière les peupliers, comme souvent. Mmh. Et du coup, il y a vraiment cette impression-là d'être entre ville et campagne, quoi, comme vous le dites.
Moi, c'est ce que j'ai dit. Vienne, c'est un village dans la ville. C'est vraiment un quartier différent qui est à la campagne.
Très bien. Et du coup, c'est vrai que vous évoquez souvent ce passé agricole, parce que c'est l'ancienne, comme toutes les villes moyennes ou les grandes villes, il y a cette ancienne ceinture maraîchère. Qui a progressivement plus ou moins disparu selon les villes. Bon, à Blois, il n'y a plus de maraîchers ici depuis un moment. Mais il y a ce passé-là avec des horticulteurs, avec le lycée horticole, avec une exploitation maraîchère qui s'est réinstallée récemment, avec les jardins ouvriers. Est-ce que pour cette édition-là, vous avez réussi un petit peu à fédérer ces acteurs-là, ou est-ce que vous avez ce projet-là un petit peu de capitaliser sur ces restes de culture agricole maraîchère qui existait auparavant ici?
On a ce projet-là et on a commencé un petit peu. On est en très très bon terme avec les horticulteurs papins qui sont déjà venus à la fête du printemps, à la fête de l'été. On espère les voir au festival. Donc il y a de très très bons contacts avec la maraîchère Anne-Sophie Castet qui est installée en face aussi. Ça se passe très très bien. Il y a des coups de main qui sont donnés des deux côtés. Donc ça, c'est aussi très agréable d'être bien accueilli comme ça. Et puis après, ça se fait aussi sur le long terme avec les rencontres, la création de projets en commun. Donc ça avance doucement là-dessus, mais c'est vraiment une envie qu'on a aussi depuis l'origine.
C'est une vraie originalité d'avoir comme ça au sein de la ville, parce qu'on est vraiment quasiment au centre de Blois, d'avoir un projet avant tout agricole, associatif, culturel, mais avant tout agricole. Et qui vient entre autres du statut inondable du site, qui fait qu'on ne peut plus construire dans cet endroit-là. Mais on voit bien dans ce que tu racontes, et puis dans tout ce qu'on va peut-être évoquer cet après-midi au cours des tables rondes, qu'il y a quand même un changement de modèle par rapport à ces terres, à ce foncier qui est pourtant un foncier qui pourrait être valorisé autrement et que vous, vous choisissez de valoriser par l'agriculture, par les activités. Ça, ça compte pour vous, ce changement-là ? Tu parlais de transition tout à l'heure. Est-ce que c'est un peu ça aussi qu'on retrouve derrière cette idée-là ?
Oui, oui, il y a vraiment cette envie de retour à la nature, retour à la terre et à l'alimentation aussi, au manger mieux, manger plus sain, mais sans forcément que ce soit plus cher. Et il y a cette envie de transmettre ça aussi aux gens, de les faire se questionner sur ce qu'ils mangent, comment ils le mangent, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités Et donc de pouvoir présenter, avoir un lieu où leur montrer ça aussi et montrer comment les légumes ils poussent et comment ça se passe. Et la volonté aussi de créer un groupement d'achat sur le site donc pour pouvoir vendre les légumes qui sont produits par Arthur, de pouvoir faire des achats d'outils aussi sur le site. Enfin, l'idée, c'est vraiment aussi de
d'organiser. Ouais, et puis d'organiser une vraie... production-consommation efficace, quoi, que vous pouvez tenir sur le long terme.
Voilà, que ça reste local, bio, ou en tout cas raisonné, bon, c'est...
Très bien. Merci beaucoup, Agathe. Donc, Marie a déjà dû nous quitter. Viens au courant.
Je suis là, je suis là.
On peut peut-être réannoncer pour les auditeurs ce qui va se passer cet après-midi. Toute l'après-midi, le marché de producteurs donc du champ à l'assiette sont présents sur l'Agora, qui est cet espace ouvert du jardin des Métairies. Donc on peut y retrouver, comme tu disais, des artisans d'art, des producteurs de légumes. J'ai vu de la charcuterie.
Il y a du pain aussi, je crois.
Il y a du pain, il y a du miel, il y a des conserves de poissons, il y a de la poterie, des bijoux, de la photo.
Tout ça. Toute l'après-midi, il y aura donc le plateau de Feuilles Vives, donc plateau radiophonique sur la question de l'agriculture urbaine.
Voilà, on va accueillir des personnes dont on a parlé à l'instant, la maraîchère voisine Anne-Sophie Castet, avec justement Arthur Lacroix, le maraîcher des Métairies.
Oui. Voilà, autour de sujets aussi variés, on va essayer aussi de réfléchir à toute la chaîne, autant celle de la production que de l'alimentation et aussi de la vie collective que ça peut apporter. Donc il y aura trois tables rondes différentes. Jusqu'au moment du repas, il y aura un repas champêtre à 18h30. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept ?
Oui, les gens viennent. Il y a deux possibilités. Soit le food truck de la Ciboulette avec burger, frites proposées, je crois.
Et oui, mais ça doit y avoir des galettes aussi. Elles changent un peu en fonction de ses envies. Ouais.
Et puis il y a Julien aussi qui propose des assiettes composées. De produits végétariens, donc il y a des houmous aujourd'hui, du houmous, des aubergines façon pizza, du gazpacho de melon, du fromage de chèvre, j'ai goûté tout à l'heure, c'est délicieux.
C'est vrai que c'est très bon.
On en sort là, c'est pas mal.
Et puis on se retrouvera tous à 20h donc pour la clôture du festival Va jouer dehors et le concert donc sur Bourville avec la symphonie de poche. On vous remet.
oui, on peut en passer un extrait d'ailleurs, un avant-goût. Donc c'est une reprise du Petit Bal Perdu.
Et merci beaucoup à toutes les deux et bon festival.
Merci beaucoup.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qui avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est tous ces amoureux qui ne regardaient rien. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de cet amoureux qui ne regardait rien. Non, il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombé dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont des amoureux qui ne regardaient rien d'autre. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux les yeux au fond des vieux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et c'était bien.